diversifier les peuplements et de mélanger les espèces d'arbres, Johannes Guillemot va nous apporter ces éléments. Donc Johannes Guillemot est du CIRAD à l'unité éco et sol.
Bonjour, merci. Alors voilà, cette présentation a été préparée avec les collègues, donc Damien Bonal et Nicolas Martin de l'INRAE et Xavier Morin du CNRS. Et l'idée, c'était de vous donner un aperçu des connaissances disponibles sur l'effet du mélange sur la résistance à la sécheresse des plantations. Alors allons-y. Peut-être. Voilà, donc les plantations, juste un petit aperçu, hein. Les plantations forestières, je ne sais pas si vous en avez beaucoup parlé jusqu'ici, c'est une petite part de la surface forestière mondiale, c'est 7%, mais une importance substantielle dans la production des produits bois à l'échelle mondiale. C'est 50% du volume de bois récolté, c'est plus d'un tiers du bois rond récolté à l'échelle mondiale. Donc c'est une importance économique certaine. Et en fait, récemment, dans les débats qu'il y a eu sur la restauration forestière, la plantation d'arbres a également pris une place prépondérante, avec des objectifs internationaux extrêmement ambitieux de restauration forestière, d'afforestation, dans tous les pays du monde quasiment. Donc en particulier, on peut citer le plan stratégique des Nations Unies pour les forêts, qui prévoit de restaurer 3% des forêts mondiales, d'augmenter la surface forestière mondiale de 3%, ça fait deux fois la France, 120 millions d'hectares, ou le challenge de Beaune, qui carrément se donne comme objectif de restaurer 350 millions d'hectares de forêts à l'échelle mondiale d'ici 2030, donc demain. Voilà, et la France n'est pas exempte de ce type de mouvement, puisqu'on a eu, par Emmanuel Macron, par notre gouvernement, une annonce d'un objectif de plantation de 1 milliard d'arbres en France métropolitaine, donc ça représente en gros 10% des arbres qu'on a déjà actuellement. Alors, évidemment, face à cet engouement, ça pose une série de questions scientifiques, et pas que scientifiques, à vrai dire, hein, même sociétales. Où est-ce qu'on va planter ces arbres? Ça nous ramène aussi à la notion que, en fait, restaurer des forêts, c'est beaucoup plus compliqué, et ça ne se réduit pas du tout à simplement planter des arbres, simplement entre guillemets, parce que ceux qui ont planté des arbres savent que c'est pas si simple que ça, en fait, mais malgré tout, la restauration d'une forêt, ça nécessite des interactions complexes entre les organismes du sol, les organismes aériens, les arbres. Et donc, en fait, le levier principal qu'on a en termes d'atténuation du changement climatique, c'est de conserver nos forêts existantes à l'échelle mondiale. C'est pas de les restaurer. En fait, les restaurer, ça coûte cher et puis c'est compliqué. Le mieux, c'est de pas les abîmer, quoi, ou même de ne pas les enlever. Et de la même manière, le levier principal d'atténuation du changement climatique, c'est de réduire les émissions carbonées. C'est pas de compter sur le puits de carbone forestier qui est de plus en plus mis à mal en plus. Voilà. Donc, alors, une fois qu'on a dit ça, on a quand même besoin de planter des arbres. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on plante? Où on les plante? Je vais arriver au mélange après. Hein. Donc en France, on plante surtout des résineux. On plante du pin maritime, du Douglas, de l'épicéa, et donc du peuplier dans une moindre mesure. Et on les plante surtout en monoculture. Alors ça, c'est vrai en France, c'est vrai dans le monde entier. En France, c'est 84% des plantations qui sont plantées en monoculture. Quand elles sont plantées en mélange, c'est surtout des mélanges de résineux. En fait, c'est un mélange 2-2 entre sapin Douglas, Douglas épicéa ou épicéa Douglas. Bon. Voilà. Mais il faut imaginer que la photo à grands traits comme ça de la plantation mondiale, ce sont des monocultures. Alors, ça pose plusieurs questions, parce qu'on a tout un socle de connaissances qui suggère maintenant assez fortement que les plantations mélangées, donc dans lesquelles on associe plusieurs espèces, répondent différemment à toute une série de perturbations qui sont liées au changement climatique, qui deviennent plus prévalentes sous changement climatique. Alors, les connaissances sont disparates en fonction des différentes perturbations. On vous en dresse ici très rapidement un tableau. Donc, ce qu'on sait, alors vous avez la taille du rond qui vous indique l'effet, et puis les petites étoiles, c'est la force de la preuve. C'est le consensus scientifique autour de ces perturbations. Donc la productivité, on a plutôt un bon socle de connaissances qui suggère que dans beaucoup de cas, mélanger des espèces, des arbres qui poussent en conditions mélangées, ils poussent plus vite que les mêmes arbres qui pousseraient en conditions de monoculture. Évidemment, j'allais dire, mais quand on mélange des arbres, des espèces différentes, en fait, on produit, on, on génère des habitats qui sont plus diversifiés et qui peuvent donc héberger une biodiversité qui est en général plus importante. Sensibilité aux sécheresses, je vais en parler un peu plus longuement plus tard. Vous voyez que déjà, on rigole moins, c'est moins clair, c'est un peu compliqué. A priori, on va plus vers un effet qui suggérait que la sensibilité des forêts monospécifiques à la sécheresse est plus importante, mais vraiment, ça dépend, c'est compliqué, je reviendrai dessus. Sensibilité aux tempêtes, a priori, forêts mélangées se comportent mieux. Aux ravageurs, c'est certainement la preuve la plus forte, la plus solide qu'on ait. C'est-à-dire, en général, et dans beaucoup de cas, même si il faut faire attention dans les cas particuliers, les forêts mélangées résistent mieux aux attaques biotiques que les monocultures. Et les forêts mélangées ont des meilleures conditions microclimatiques, elles régulent mieux la température, par exemple, au niveau du sol, que les plantations monospécifiques. Pour le feu, le niveau de la preuve est très bas, ce sont des sujets de recherche qui sont extrêmement actifs en ce moment, il n'y a encore pas tellement de bases scientifiques consensuelles. Alors voilà, en général, les plantations mélangées sont plus, plus multifonctionnelles que les monocultures. Dit autrement, ça veut dire qu'en fait, elles ne surpassent pas forcément les monocultures pour toutes les fonctions, évidemment, mais par contre, elles sont moins mauvaises sur toutes les fonctions. Elles sont plus polyvalentes en termes de fonctions, si vous voulez. Alors, le mélange permet d'améliorer en général la résistance des plantations aux attaques de pathogènes ou d'insectes. Quid de la résistance à la sécheresse ? J'y arrive enfin au titre. Vous avez trouvé non ? Non ? Alors, comment ça se passe en général ? Quand on mélange des arbres, alors ici, c'est un exemple qui vient de Soline Martin-Blangy et ses collègues. C'est un exemple où ils ont mélangé du bouleau et du pin maritime. Quand on mélange des arbres, ce qui se passe en général, c'est qu'on a une meilleure complémentarité spatiale des couronnes, qui est notamment due au fait que, de toute façon, les espèces ont des couronnes qui ont des caractéristiques différentes, et en plus, il y a une plasticité des arbres quand on les mélange, qui fait que leurs couronnes, comme on le voit ici, vont avoir une configuration spatiale qui se complémente, et qui fait que, quand vous prenez la plantation en entier, en fait, elle intercepte plus de lumière que les mêmes arbres qui pousseraient en monoculture. Donc il y a plus d'interception de la lumière, et donc il y a une proportion plus importante de feuilles qui reçoit de la lumière, que ce soit directe ou diffus. Or, la lumière est une des ressources nécessaires à la photosynthèse et donc à la croissance. Okay ? Et en général, le mélange conduit aussi à avoir plus de surface de feuilles. Donc on parlait d'indice foliaire tout à l'heure, un indice foliaire plus élevé. Donc vous avez plus de surface qui photosynthétise, et en plus elle reçoit plus de lumière. Donc plus de photosynthèse, et donc en général plus de croissance. C'est ce qu'on appelle le bonus de productivité en plantation mélangée. Mais c'est là qu'en fait il n'y a pas de magie, vous avez aussi plus de surface transpirante évidemment. Et en plus cette surface transpirante, donc les feuilles, elles reçoivent plus d'énergie, plus de lumière. Cette énergie, il faut bien la dissiper quelque part, et une des manières de dissiper cette énergie, c'est d'évaporer de l'eau. Donc en général, quand on croît plus, eh ben on transpire plus. Voilà. Donc en fait, souvent, ce qu'on observe, c'est que les plantations mélangées, elles transpirent plus, de fait. Elles utilisent plus d'eau, si vous voulez. Alors, est-ce que c'est un problème ? Ça peut l'être, hein, bien sûr, parce que ça peut accélérer l'apparition des sécheresses, du stress hydrique, mais ça ne l'est pas nécessairement. C'est là que c'est un petit peu subtil. C'est que, en fait, le fait qu'il y ait plus de transpiration, ça ne se traduit pas nécessairement dans un stress hydrique plus important des arbres qui sont en mélange. Pourquoi ? Parce que si ces espèces ont des stratégies d'utilisation de l'eau qui sont différentes, en fait, elles peuvent avoir accès à davantage de ressources en eau, ou alors, en fait, la ressource en eau va être mieux distribuée, spatialement ou temporellement, ce qui fait qu'en fait, les espèces en mélange, elles vont réussir à ne pas rentrer en stress hydrique malgré le fait que la plantation utilise plus d'eau. Alors, pour illustrer ça, je prends deux exemples très simples. Donc, l'exemple peut-être que tout le monde a en tête, c'est imaginer si on plante deux espèces qui explorent des horizons de sol différents. Il y a une espèce qui a des racines traçantes, qui explore les horizons de surface, et une espèce qui va aller chercher les horizons profonds. Alors dans ce cas-là, en fait, quand on associe ces deux espèces, la ressource en eau à l'échelle de la plantation est plus importante, parce qu'il y en a qui vont prélever en haut, il y en a qui vont prélever en bas, la compétition va être, dans la théorie, relativement faible, et chacun va être dans son couloir, et donc moins de risque de stress hydrique localement lors d'une sécheresse, et donc meilleure tolérance à la sécheresse. Ok. Alors un grand exemple pour illustrer, ce serait des stratégies complémentaires d'usage de l'eau. Alors vous avez certainement largement parlé de ça dans les présentations d'hier. Il y a différentes stratégies quand une plante se déshydrate, elle a différentes réponses qui lui permettent de survivre au stress hydrique. Et une des grandes réponses, c'est bien sûr la régulation stomatique, c'est la fermeture des pores des feuilles pour éviter de perdre de l'eau. Sauf que quand on régule ces pores, on n'a aussi pas d'entrée de carbone. Donc il vaut mieux pas réguler tout le temps, sinon ça ne se passe pas bien. Donc c'est un des, comme ça, c'est un des compromis du vivant fondamental, du végétal en tout cas, qui détermine beaucoup de choses. Et donc il y a différentes stratégies face à ce compromis fondamental. Il y a des espèces qui vont réguler tard, on pourrait penser ça comme un comportement à risque, si vous voulez. Elles régulent tard, elles photosynthétisent tard, elles se disent « bon, tant pis, je perds de l'eau, mais au moins, je crois, je fais de la photosynthèse ». Donc dans ce cas-là, elles épuisent rapidement l'eau du sol. Il y a des espèces qui vont réguler tôt, aversion au risque. Elles régulent tout de suite, elles se disent « bon, je ne pousse pas, je ne fais pas de photosynthèse, mais au moins, je n'épuise pas trop vite l'eau du sol ». Et si on mélange ces deux stratégies, quelque part, l'espèce qui régule tôt, bon, elle régule tôt, pour elle, ça ne change pas grand-chose, de toute façon, elle n'avait pas une stratégie risquée. Par contre, l'espèce qui régule tard, vous voyez, là, j'ai mis un niveau d'eau intermédiaire, en fait, l'espèce qui régule tard, elle profite du fait que ses voisins, ils ont régulé tôt, et donc elle a plus d'eau. Et donc, quelque part, ça limite le risque pour les espèces qui régulent tard. Okay ? Donc, association de stratégies de régulation stomatique, ça peut aussi être quelque chose qui mène à augmenter la tolérance à la sécheresse des plantations. Alors maintenant, je rentre dans le concret. Qu'est-ce qu'on sait ? Est-ce que le mélange a fait ses preuves sur la résistance à la sécheresse ? Vous allez être déçus. Il y a Charlotte Grossier qui a fait une revue des résultats disponibles sur l'effet de la diversité sur la résistance à la sécheresse. Et en fait, les résultats sont contrastés. C'est-à-dire, parfois c'est négatif, parfois il n'y a pas d'effet, parfois c'est positif, et parfois dans une même étude, c'est positif et négatif. Ça peut être positif pour une espèce, négatif pour l'autre, ou ça dépend du site. Donc l'idée qu'il faut retenir de ça, c'est que en fait, les études disponibles suggèrent que l'effet du mélange est très variable et il varie en fonction de la composition. Ça ne devrait pas vous surprendre parce que j'ai parlé de la stratégie des différentes stratégies. Donc en fait, il ne suffit pas de dire on va mélanger, il faut savoir qu'est-ce qu'on va mélanger. Et il faut mélanger les bonnes stratégies pour avoir des effets positifs. La diversité n'a pas d'effet systématiquement positif, c'est un peu ça l'idée. Et en plus, ça dépend du site, donc ça dépend du sol et du climat local. Voilà, alors il y a quand même des pistes une fois qu'on a dit ça, même s'il est encore trop tôt pour dégager des règles générales. Alors, bien sûr, il faut favoriser en plantation des espèces d'arbres tolérantes à la sécheresse et à la canicule, ça ne va pas vous surprendre. Favoriser des espèces d'arbres qui consomment peu d'eau. Et également, favoriser des mélanges feuillus résineux qui ont fait leur preuve dans nombre d'essais, nombre de situations. En particulier, on a eu des résultats positifs sur les mélanges pin-chêne en contexte méditerranéen comme en contexte tempéré. Pour un panel de fonctions et de services écosystémiques, en particulier les attaques biotiques et la résistance à la sécheresse. Donc ce type de mélange pin-chêne, c'est vraiment quelque chose qui en ce moment est étudié, quoi, qui est une piste vraiment prometteuse. Voilà. Alors, donc, comme je le disais en introduction, les forêts mélangées sont plus multifonctionnelles que les monocultures, ce qui correspond plus en fait au type de gestion forestière multifonctionnelle français, métropolitain, où on essaye de faire un petit peu tout sur les mêmes parcelles. Mais on doit encore accroître notre connaissance pour comprendre quelles compositions d'espèces sont les plus à même de fournir le panel de fonctions de services que le gestionnaire s'est donné comme objectif. Voilà. Alors, différents projets sont en cours pour obtenir plus de données. Et en fait, en particulier, un moyen d'obtenir plus de données, c'est de mettre en place des expérimentations d'arbres, de la même manière que Maxime Cailleret parlait des essais qu'il est allé remesurer. Et bien, en fait, on met en place des expérimentations dans lesquelles on plante des monocultures et puis des mélanges des mêmes espèces dans un design répliqué ou qui permet de faire des statistiques un petit peu solides. Et ça nous permet de comparer les différents traitements et d'isoler et de quantifier l'effet de la diversité. Mais les arbres, ça pousse doucement. Et dans un contexte de recherche où on a des projets de recherche qui durent 2-3 ans, maintenir ces projets au long terme, tout comme maintenir des essais à long terme ou maintenir des sites ICOS, ça nécessite vraiment un courage et une volonté politique, quoi. Et donc, il y a un des sites phares, on va dire, de ces études de la diversité, c'est le site Orphée, qui est maintenu par l'INRAE à Bordeaux. Voilà. Et tout ça est intégré dans un réseau mondial qui s'appelle TriDivNet. Et en ce moment même, j'espère, la prochaine fois qu'on se voit, j'espère avoir plus de résultats, puisqu'on a le projet européen Mix for Change, qui étudie l'effet de la diversité sur la tolérance à la sécheresse dans 4 pays européens et le Brésil, dont le site Orphée en France. Voilà les sites, les liens pour ceux qui sont intéressés. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Très bien, merci beaucoup. J'ai envie d'évoquer ce vieux souvenir de l'époque où on faisait des carrefours carrières. Vous vous rappelez, on présentait le métier du forestier à des enfants. Et en général, on était abordé par les mamans qui disaient « Mon fils travaille pas bien à l'école, il pourrait faire forestier ». Je crois que l'idée est vraiment battue en brèche parce qu'il nous faut mettre de la connaissance, de l'intelligence et de la réflexion à tous les niveaux, dans tous les choix que l'on va opérer. Sacré boulot. Écoutez, je vous propose qu'on garde les questions que vous avez en avez sûrement, pour un deuxième temps, une fois